Chers amis, un an après la mise en place surprise des mesures Covid dans les universités et hautes écoles en Suisse, Radio Libre vous propose un état des lieux des recours juridiques lancés par différents groupes d'étudiants dans les cantons de Vaud, Genève et Fribourg. Nous avons interviewé Maxime, représentant les recourants vaudois, qui jette l'éponge désabusée par la justice, puis Benoît, de l'association Ça suffit à Genève, qui eux poursuivent leur procédure. Retrouvez les liens de ce podcast en cherchant le numéro 15 368 sur radiolibre.ch. Bonne écoute.
Vous souhaitez faire un geste engagé? Devenez donateur, contributeur, mécène pour Radio Libre. Toutes les informations sur radiolibre.ch. Merci.
Vous écoutez Radio Libre.
Salut Maxime, comment vas-tu?
Salut Charlie, très bien, merci et toi?
Alors, on te connaît peut-être déjà parce que tu es un des étudiants de l'Université de Lausanne qui a fait un recours qui a duré près d'une année contre les mesures Covid. Donc tu es là maintenant peut-être pour nous donner quelques précisions sur qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi en fait vous avez jeté l'éponge.
Oui, alors effectivement, on a jeté l'éponge très récemment après une procédure assez longue, hein, puisqu'on l'a lancée, si je me souviens bien, en septembre 2021, donc il y a quasiment, enfin il y a un an maintenant, ou peut-être un peu plus tard. Ça a été une procédure longue et puis assez fastidieuse qui a demandé qu'on lève des fonds assez souvent. On a eu des réponses effectivement de la cour vaudoise constitutionnelle qui nous a dit qui a refusé de statuer, hein, si j'ai bien compris, qui nous a dit que notre requête maintenant était sans objet, ce qui est un jugement assez surprenant parce qu'en fait, ouais, même sans avoir beaucoup de connaissances juridiques, on se dit que quand on considère que quelque chose d'illégal a été fait, a intenté, effectivement, que les lois qui le permettaient ne sont plus en application aujourd'hui, on se dit quand même, effectivement, les autorités qui ont mis en place ces lois à ce moment-là auraient, a priori, je pense, des comptes à rendre, ou en tout cas, elles devraient pouvoir être contestées et éventuellement avoir à exprimer un mea culpa au minimum. Mais c'est parce que la Cour a décidé, avec son jugement assez étonnant, que notre requête était sans objet. Cela dit, oui, c'est pas vraiment surprenant. C'est vrai que quand moi, je m'étais engagé dans ce recours, je l'avais fait plutôt pour finalement par principe, en fait, plus que dans l'optique d'obtenir vraiment des résultats concrets. Je m'étais dit, il faut montrer que, et ça on l'a très bien fait pour le coup, il faut montrer qu'il y a une résistance qui existe. On l'avait montré au niveau politique, on l'avait montré dans la rue. Et il fallait montrer qu'il y avait une résistance aussi au niveau juridique qui s'organisait, avec vraiment des étudiants qui étaient au départ nombreux et soudés, et puis avec vraiment beaucoup de donateurs qui ont été très généreux d'ailleurs, qui nous ont permis, que je remercie encore une fois par la même occasion, qui nous ont permis d'aller aussi loin. Et ça, on l'a fait assez brillamment et ça reste quand même quelque chose, je pense, de très important qu'on a su faire. D'autant plus que finalement, la procédure n'a pas été tranchée par le tribunal fédéral, ce qui veut dire que si d'aventure d'autres mesures Covid venaient à être décrétées ou si les anciennes venaient à être ressuscitées en quelque sorte, on pourrait à nouveau relancer la procédure. Donc finalement, oui, il reste une sorte de menace qui pèse sur les autorités s'ils leur prenaient l'envie, admettons à l'hiver prochain ou plus tard, éventuellement de réactiver les mesures Covid donc à l'université. Pour leur montrer justement que oui, il y a une procédure en cours, il y a toujours des gens qui sont prêts éventuellement à la reprendre, et qu'il y a des groupements efficaces qui ont su mener une action juridique concrète pour contester ce qui a été fait donc à l'université récemment.
Et comment s'est passée la rentrée cette année? Je pense qu'on est à des années de lumière de ce qui s'est passé l'année passée. Est-ce que les gens en parlent encore ou bien ça a complètement disparu des radars?
De mon expérience personnelle, bon maintenant j'ai plus besoin d'aller à l'université vu que je fais mon mémoire, mais de mon expérience personnelle, vraiment on en parle très peu, voire plus du tout, hein, même c'est vraiment plus du tout un sujet d'actualité. C'est vrai que, bon, de temps en temps, quand j'essaie de relancer le sujet éventuellement, je passe un peu pour le mec relou qui ramène des choses dont finalement personne n'a vraiment envie de parler, parce que c'est vrai que quelque part on peut le comprendre, hein, ça rappelle ça rappelle des épreuves, des souvenirs qui sont jamais bons. Hein. Concrètement, ça n'a plu à personne, hein, cette période. Donc, j'ai l'impression que la plupart des gens, notamment des étudiants, ont vraiment envie de mettre ça derrière eux, qu'on en reparle le moins possible. Mais quelque part, c'est dommage parce que finalement, nous, enfin, on considère qu'il y a des fautes qui ont été commises pendant cette période et logiquement, ceux qui les ont faites devraient quand même rendre des comptes. Mais ça n'a pas été possible pour l'instant. On verra effectivement avec le recours qui est en cours à Genève ou à Fribourg ou ailleurs. Mais effectivement, la rentrée, pour l'instant, plus de restrictions, plus personne n'en parle. Le sujet vraiment est sorti de l'actualité complètement chez les étudiants. Franchement, c'est assez incroyable. J'ai l'impression que ça a été oublié, quoi. C'est comme s'il y avait un trou noir qui avait tout aspiré et qu'on avait tout remis à zéro. Tout est oublié. Je veux dire, j'avais des amis, enfin, j'ai toujours des amis d'ailleurs vaccinés qui étaient allés à l'université, triplement vaccinés même. Et c'était de temps en temps un sujet de discussion. On s'est jamais pris le chou là-dessus, mais on en discutait assez souvent. Et là, plus du tout, ça a totalement disparu. Parce que ça a été un tel traumatisme, en fait, pour vraiment beaucoup de gens que, ça a disparu des mémoires. On a l'impression que ça ne s'est jamais passé.
Le miracle. Très bien. Est-ce que tu aurais encore des choses à rajouter en conclusion?
Non, peut-être à part vraiment remercier à nouveau tous les recourants, tous les donateurs, les avocates, toi Charlie, Claudia aussi qui a permis d'effectuer la communication entre les avocates et les recourants. Un grand merci à vous tous parce qu'il fallait le faire. C'est très bien qu'on l'ait fait, on l'a fait, on l'a bien fait. Voilà, maintenant, comme on l'a dit dans nos communiqués, il faut continuer le combat, notamment à Genève, en les soutenant financièrement. À Fribourg éventuellement aussi, voilà, il y a toujours des initiatives en cours. Nous, on l'a fait à notre échelle dans le canton de Vaud. Les avocates ont vraiment mis au point, je pense, un argumentaire assez bon, hein, très, très clairement, qui pourrait être utilisé à l'avenir et qui peut-être même a été utilisé par d'autres avocats ailleurs. Voilà.
C'était plus d'une soixantaine de pages d'argumentaire.
Mmh. Ouais, tout à fait.
Très bien. Un grand merci, Maxime. Tout de bon pour la suite pour ton mémoire. Hein. Et puis on se retrouvera certainement à d'autres occasions beaucoup plus joviales. Merci beaucoup.
J'espère certainement. Merci à toi, Charlie. Merci.
Vous écoutez Radio Libre.
Nous accueillons Benoît de l'organisation estudiantine Ça suffit, qui s'est justement dressé l'année passée contre les mesures Covid en questionnant leur légalité et leur pertinence. Salut Benoît.
Salut. Merci pour l'invitation.
Mais je t'en prie, merci de l'avoir accepté. Donc, toi, tu représentes les étudiants genevois, hein, principalement.
Oui, c'est ça.
Et donc, le recours que vous avez déposé il y a bientôt un an, hein, aussi.
Oui, on avait déposé début octobre, donc ça prend du temps. Hein.
Ça prend du temps, oui. Peut-être que tu peux nous faire un petit topo sur la chronologie de ce qui s'est passé entre deux, et puis une petite news, et puis après, on continuera la discussion.
Parfait. Alors, je récapitule brièvement. Donc, il y a effectivement environ un an sont entrées en vigueur ces mesures dites sanitaires. Concrètement, l'accès aux cours, aux cafétérias et à la bibliothèque était restreint pour les gens qui n'avaient pas de certificat sanitaire. Donc, vous pouvez obtenir soit par vaccination, soit par des tests qui se faisaient sur des stands de tests gratuits, mais dont les horaires étaient un peu restreints. Il y avait pas mal de monde. Et puis, progressivement, ça encourageait tout le monde à se faire vacciner. On ne savait pas si ça allait rester gratuit ou pas. Et donc, dans ce climat-là, le 11 octobre 2021, on a déposé ce qui s'appelle une opposition. Donc, c'est plusieurs étudiants qui se réunissent. On a écrit un texte avec un avocat et on a écrit au service juridique de l'UNIGE en disant, voilà, les mesures, on pense qu'elles violent tel et tel article de loi, qu'elles ne sont pas constitutionnelles non plus. Il faudra trouver autre chose. Alors, en fait, ce qu'on a reçu comme réponse à ce moment-là, c'est que notre opposition n'était pas recevable. Donc, il y avait une critique sur la forme de la procédure.
Et donc de la part du service juridique de l'université.
Ouais. Et donc face à ça, ce qu'on avait comme option ensuite, c'était déjà un mois plus tard, on a reçu cette réponse, novembre 2021, alors que normalement, poser une opposition, en fait, ça devrait suspendre les mesures le temps qu'il y ait un vrai débat sur le litige et puis qu'on trouve une solution, ce qui n'a pas été fait. Et donc, il a fallu qu'on aille vers la chambre de la Cour de justice genevoise. Et ça a pris en gros 6 mois de procédure juste pour prouver qu'on avait le droit de faire cette opposition. Mmh. Et c'est ça qui a fait traîner beaucoup l'affaire. En fin de compte, on a eu gain de cause sur ce point. Et l'UNIGE a eu une petite condamnation d'environ 1500 francs à nous verser, puis aussi les frais de justice. Et donc, ça a renvoyé le dossier initial au service juridique de l'université. Et en fait, ce n'est que cet été qu'ils ont répondu sur le fond aux arguments qu'on avait avancés l'année passée. Et donc, on a reçu cette réponse qui, en fait, appuie leur position. Et donc, maintenant, on a fait, en fait, recours contre cette réponse parce qu'on n'est pas d'accord avec le contenu argumentaire et la manière dont ils répondent à nos arguments. Et donc, ça, c'est retourné de nouveau à la Cour de justice, donc la Chambre administrative. Et pour l'instant, donc, on a reçu une première réplique de l'université qui répond à notre recours. On va aussi répondre et puis il va peut-être y avoir encore un ou deux échanges. Et en fin de compte, on attend donc du juge, enfin de la juge en l'occurrence de la Cour de justice, qu'elle nous, que nous explique en fait ce qui était légal, ce qui n'était pas dans cette histoire.
D'accord. Donc on, pour expliquer, pour comprendre, donc vous faites ça vraiment pour éviter que ne se reproduise quelque chose qui pourrait potentiellement être illégal, c'est ça?
Oui, c'est ça. Donc le but principal de ce recours, c'est bah, d'une part d'obtenir la clarification légale pour savoir ce qui était légal, ce qui n'était pas, et surtout de se prémunir qu'il y ait de nouvelles fois ce genre de situation. Donc on ne veut pas la même mauvaise surprise cette année. Là, peut-être l'hiver prochain, il y aura une nouvelle épidémie de Covid, peut-être les cas vont monter. Est-ce que l'UNIJ a le droit de remettre en place ce genre de mesures? Le cas échéant, à quel point? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives? Est-ce que, par exemple, les tests pourraient devenir payants ou pas pour ceux qui ne sont pas vaccinés? Toutes ces questions, elles sont encore assez floues et on aimerait bien avoir des garanties à ce sujet et puis un cadre assez précis.
Donc, on a vu dans ces combats d'étudiants qu'il y avait quand même des différences assez radicales entre les cantons. Hein. On a vu que les étudiants vaudois ont dû passer par une cour constitutionnelle.
Voilà. Alors, ces différences, elles viennent aussi un peu des différentes approches qui ont été choisies pour faire remonter le problème. En fait, le système juridique suisse est fait d'une certaine manière, et puis il y a plusieurs voies pour amener un dossier jusqu'à une cour compétente. Je crois que les Lausannois, par exemple, ils ont attaqué directement l'État. Donc c'est passé à la Cour constitutionnelle. Nous, on a fait un peu différemment. On s'oppose à l'Université de Genève, qui reste une émanation de l'État, mais ce n'est pas exactement la même voie juridique. Ce n'est pas du coup non plus les mêmes articles de loi qui sont discutés.
D'accord, donc c'est la différence. Et à Genève, il y aurait aussi une cour constitutionnelle dans le canton de Genève.
Alors, je ne suis pas un juriste de formation, donc je ne pourrais pas répondre dans tous les détails, mais je pense qu'effectivement, il y avait aussi cette possibilité à Genève, mais qu'on n'a pas choisi, là, sur les conseils de notre avocat qui connaissait mieux le sujet.
Les rouages, ouais.
Ouais, mais là, c'est purement une question de forme, de comment amener le problème. Et le problème de fond, c'est que il y a cette fameuse loi sur les épidémies de 2012, je crois, dans la législation suisse. Et puis, il y a cette ordonnance du Conseil fédéral qui demande de mettre en place des mesures sanitaires. Et en fait, on ne sait pas très bien à quel point ça concerne les établissements universitaires. Et puis, parce qu'en fait, cette fameuse loi de 2012 prévoit différentes manières de restreindre les accès. Il n'y a pas forcément besoin de mettre des certificats sanitaires. Et qui plus est, dans le cas des universités, contrairement aux restaurants, on a un problème parce qu'il y a des lois qui rentrent en contradiction. Il y a un droit, en fait, à accéder à la formation sans aucune forme de discrimination dès lors qu'on remplit les conditions d'immatriculation. Donc ça, c'est garanti par certaines lois sur l'éducation. Et donc, on a l'ordonnance du Conseil fédéral qui vient en contradiction avec ces lois. Ce qui n'est pas le cas pour les bars ou les restaurants parce qu'il n'y a pas un droit à boire des bières, même si on pourrait peut-être le demander.
Mais par contre, on pourrait faire le parallèle avec le monde du travail où les employés n'ont pas forcément été forcés de présenter un certificat Covid pour aller travailler.
Oui, c'est ça, en fait. L'université, c'est un peu entre deux. C'est pas un rapport d'employé à employeur, mais ça reste quand même quelque chose qui est du domaine public auquel l'accès est garanti par des lois. Et donc, en fait, tout le fond du débat, c'est de savoir si l'université pouvait légalement aller jusqu'où ils ont été dans la restriction d'accès. Et donc, c'est que contredit certains articles de loi et certains principes constitutionnels.
Est-ce qu'à Genève, vous êtes retrouvé dans des situations similaires? On avait vu sur mise au point les cas des Vaudois, où vous aviez accès au bâtiment, mais vous ne pouviez pas rentrer dans les auditoires.
Puis donc, oui,
vous croisiez quand même les mêmes étudiants, mais vous n'avez pas le droit de vous asseoir dans l'auditoire, mais vous pouvez assister aux cours sur le pas de la porte. Ça aussi.
Donc il y avait des choses assez ridicules comme ça, effectivement. On pouvait voir des cours sur le pas de la porte, on pouvait rentrer dans les bâtiments. aller sur certaines tables, certains locaux, mais par contre pas les cafétérias, pas la bibliothèque et pas les salles de cours.
D'accord.
Et donc il y avait vraiment des sécuritas devant la porte de la salle de cours, alors des sécuritas qui patrouillaient dans l'amphithéâtre sur les pauses pour demander au hasard les certificats Covid.
Et vous avez eu le courage justement de faire cette démarche. Comment le groupe s'est constitué au départ?
Quelqu'un qui a lancé un groupe Telegram, et puis en quelques jours, il y avait pas mal de monde sur ce groupe qui discutait de quoi faire. Il y a eu quelques réunions en personne, et puis finalement, c'est constitué une petite association d'étudiants. Il y a eu quelques avocats contactés, il y en a un qu'on a retenu. On a négocié un peu des tarifs, et ensuite, on s'est mis en route, quoi. Et moi, j'ai repris... En cours de route, la structuration de l'association, la récolte de fonds, et puis on a lancé la procédure un peu in extremis dans le délai imparti. Et ensuite, bah, c'est une succession d'échanges entre le service juridique, entre les avocats et nous, etc.
Au niveau des avocats, vous êtes vraiment bien tombé sur un avocat qui n'impose pas les tarifs normaux,
parce
on va dire.
Ouais. Ce qu'il a accepté de faire, en fait, c'est qu'il a des stagiaires, donc c'est essentiellement les stagiaires qui travaillent sur notre dossier. Donc ça coûte déjà un peu moins cher, et puis ensuite il a accepté qu'on étale des paiements dans le temps, donc on se cotise en fait pour payer un petit peu tous les mois, ce qu'on fait depuis donc l'année dernière. Et à côté de ça, de temps en temps, il faut verser des enveloppes un peu plus grosses qui sont soit pour les frais de justice, soit pour des avances de frais à l'avocat quand il y a un peu de travail à fournir sur une écriture de recours. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a fait cette collecte de fonds avec vous, et un grand merci de l'avoir organisé ça.
Mais tout à fait. Et puis aussi ben, la question de la justice, de l'accès à la justice. On a vu que les étudiants vaudois, eux, ont renoncé à continuer justement aussi, en partie à cause des coûts engendrés, et puis aussi de la longueur d'attente des réponses, et puis peut-être de ces allers-retours entre la Cour constitutionnelle et le tribunal fédéral au final. Est-ce que pour vous, vous voyez un problème dans l'accès à la justice ou le déroulé des procédures?
Moi, je pense que c'est une question assez générale qui ne concerne pas que nous. C'est dans la plupart des pays européens, l'accès à la justice, c'est assez compliqué, c'est des procédures longues, on ne comprend rien aux lois, elles sont de plus en plus nombreuses et contradictoires. Et donc, globalement, c'est assez difficile en tant que simple citoyen d'avoir gain de cause et de pousser jusqu'au bout des procédures. C'est un énorme budget, ça fait travailler des heures les avocats et des juristes. Et qui plus est en Suisse, ben, ça coûte assez cher à cause des tarifs en vigueur en Suisse. Et donc effectivement, ça donne l'impression que le système est un peu fait pour décourager, mais ce que je peux comprendre aussi, parce qu'on ne va pas non plus avoir tout un chacun qui dépose des plaintes pour un oui et pour un non. Donc il faut quand même une certaine restriction. Mais oui, c'est bon, en réalité, il y a des aides hein, aussi juridiques en Suisse, mais on n'était pas éligible à ces aides-là parce que visiblement, il fallait être vraiment en grande précarité sociale pour pouvoir les demander. Ce qui n'était pas non plus notre cas. On était un peu entre deux.
Alors, lundi, donc, on a eu un article dans le journal 20 minutes en ligne, hein, notamment déclenché par un communiqué de presse des recourants des étudiants vaudois qui annonçaient qu'ils quittaient la scène juridique et qu'ils abandonnaient leur recours, et puis aussi qui vous a donné une tribune parce que vous continuez et les étudiants vaudois se joignent à vous. Alors pour faire quoi? Quels sont vos arguments? Et puis peut-être vous avez vu des réactions sur cet article du 20 minutes qui vous ont fait réagir, vous.
Ouais, alors déjà, c'était une bonne surprise de voir cet article. On trouve qu'il était assez impartial. Ils ont essentiellement cité le communiqué qu'on avait écrit avec ESC et les étudiants vaudois. Donc merci aux 20 minutes d'avoir relayé cela. Alors, les arguments en présence, donc tout le détail, ça relève vraiment de la compétence des juristes. Je n'aurais pas la capacité d'aller dans le détail. Il faudra, si vous voulez vous trouver de la lecture pour vous endormir le soir, aller sur notre Tipeee et regarder la belle prose de notre avocat et des juristes de l'UNIGE. On publie donc tous les documents pour permettre aux donateurs de suivre la procédure. Mais donc essentiellement, de notre côté, on a fait la liste des principes constitutionnels et des articles de loi qui sont enfreints par les mesures. Donc on montre en fait la contradiction. Et le grand principe qu'il y a derrière, c'est que normalement, la Constitution prime sur les lois fédérales, et les lois fédérales priment sur les lois cantonales, et ainsi de suite, puis il y a une sorte de hiérarchie. Et donc on ne peut pas, au nom d'une ordonnance fédérale, contrevenir complètement à des principes constitutionnels ou des lois fédérales. Et donc, c'est ça le nœud du problème. Et ensuite, il faut trouver une raison éventuellement de faire des exceptions. Et donc, les exceptions, parfois, sont admissibles s'il y a une raison valable, entre guillemets, de le faire. Et là, ça dépend de la gravité de la situation et de la mesure qu'on prend et comment elle est efficace ou non pour répondre au problème. Et donc, nous, on appuie l'idée qu'il n'y avait pas vraiment de raison du jour au lendemain, comme l'avait fait le recteur Flückiger, de mettre en place ces mesures en vendredi soir pour un lundi, alors qu'on aurait peut-être pu discuter plus avec les associations étudiantes et enseignantes et trouver d'autres solutions, parce que l'épidémie n'était pas en train de flamber à ce moment-là. À l'inverse, la défense du rectorat, de l'UNIJ, c'est plutôt de dire qu'ils ont obéi avec beaucoup de zèle à l'ordonnance du Conseil fédéral et que ce n'était pas à eux de décider d'aller contre. Et que par ailleurs, comme ils ont mis des centres de tests gratuits et des centres de vaccination, ils permettaient quand même une sorte d'équité à l'accès aux cours et que c'était la meilleure solution qu'ils avaient trouvée. Et que de toute façon, c'était nécessaire parce qu'après, pendant l'hiver, il y avait une épidémie de variant Omicron. Et donc, on verra ce que disent les juges. Il y a un petit problème dans l'argumentaire de l'université parce qu'ils s'appuient beaucoup sur ce qui s'est passé après. Donc, ils nous parlent de Omicron et de l'hiver qui a suivi. Alors que normalement, quand il y a un litige, on regarde les données qu'il y avait au moment du litige, c'est-à-dire en septembre 2021, où là, il n'y avait pas d'épidémie d'Omicron. Voilà, essentiellement pour ce qui concerne le fond. Effectivement, on a regardé un petit peu les commentaires sur l'article du 20 minutes. Alors, il y a beaucoup de personnes qui nous soutenaient, et donc on les remercie beaucoup pour ce soutien, et on remercie aussi tous les donateurs qui ont déjà versé sur la collecte de fonds, parce qu'on a presque... On a quoi, plus de 1800 francs, je crois, maintenant. Donc, merci beaucoup. L'argent servira donc essentiellement à payer les stagiaires de notre avocat. Il y avait aussi quelques commentaires négatifs. Je pense que c'est l'occasion de faire quelques remarques à ce sujet. Notamment, donc, certains commentaires qui disaient que les étudiants, c'est un peu des parasites, qu'ils n'arrêtent pas de se plaindre, etc. Alors, pour répondre, je dirais que je suis d'accord avec une partie de ce constat, c'est que sociologiquement, les étudiants, ce n'est pas des gens qui produisent, donc ils sont un peu à la charge du contribuable. Mais c'est une raison de plus pour essayer de faire en sorte que le cursus ne dure pas éternellement, qu'ils finissent par trouver un travail et de ne pas rendre plus compliqué encore la poursuite des études. Et quand vous songez deux minutes à tout le dispositif qui a été mis en place dans l'UNIJ, vous verrez que ça engendre aussi un certain surcoût. Il a fallu payer des Securitas, il a fallu payer aussi d'autres étudiants pour jouer le rôle de Securitas parce qu'on n'avait pas assez pour garder toutes les portes. Donc on avait des sortes de Covid Angels rétribués 20 francs de l'heure pour essentiellement nous empêcher d'aller dans la bibliothèque emprunter des livres. Et puis on avait donc tous ces tests qui ont été faits sur des stands et toutes ces vaccinations gratuites qui se fait in fine aussi aux frais du contribuable. Et donc, ils ont été beaucoup utilisés, autant les vaccins que les tests, par des étudiants, alors que ce n'était peut-être pas nécessaire à ce moment-là pour eux. Donc, tout ça, ça a aussi un coût, et justement, à raison de plus pour ne pas prendre des mesures qui ne sont peut-être pas tout à fait proportionnées à la situation, et ça éviterait peut-être d'autres surcoûts. Alors, dans les commentaires négatifs, on nous disait aussi, de nouveau, que les étudiants font de la pleurniche, qu'ils n'assument pas leurs actes, que ce n'est pas très adulte de leur part de demander des sous. Bon, si ça vous rassure, non, on n'est pas dans la victimisation ou la pleurniche. La raison pour laquelle on demande cet argent, donc la première, c'est qu'on a déjà mis de notre poche une certaine somme, on se cotise tous les mois pour payer un peu notre avocat, et quelques-uns parmi nous ont un petit peu de revenus, dont votre humble serviteur. Il y a quelques milliers de francs déjà que j'ai mis moi aussi dans la procédure que je ne reverrai pas tout de suite. Donc on fait nos efforts, toutefois, ça coûte tellement cher en fait que... on a besoin d'aide pour assumer les coûts et rétribuer correctement l'avocat. Deuxièmement, c'est en fait parce qu'on n'agit pas que pour nous. La plupart d'entre nous, on est plutôt sur la fin de nos études. Donc si on fait ça, c'est aussi pour tous les autres étudiants qui n'ont peut-être pas pu exprimer ce qu'ils ressentaient et qui n'ont pas eu le courage ou qui ont peur d'entreprendre cette procédure. Donc on fait ça en fait pour les étudiants plus jeunes qui ont encore plusieurs années d'études devant eux. Et donc à ce titre, on pense que c'est pas immoral de demander un peu d'argent aux gens à qui ça pourrait bénéficier plus tard. Et puis, alors, il y avait aussi quelques autres commentaires sur... toujours un peu la même chose. Est-ce qu'on est une sorte d'association gauchiste qui va encore faire des combats où on pleurniche, on se victimise? Non, on se positionne pas vraiment sur le spectre politique. Je dirais qu'on est ni de gauche ni de droite, qu'il peut y avoir des bonnes idées dans les deux. Mais notre combat n'est pas politique. Nous, on se concentre juste sur la question du pass sanitaire à l'université. Et justement, on était plutôt déçus par les associations étudiantes qui existaient déjà. Il y a des très grosses associations comme celle des étudiants de médecine de Genève ou la CUAE qui ont beaucoup de moyens et qui n'ont pas fait grand-chose contre ces mesures. À la rigueur, ont plutôt même demandé plus de tests et plus de vaccins. Et donc, quand on était un peu déçus par ça, on s'est dit qu'il fallait entreprendre nous-mêmes notre procédure parce que sinon, personne ne le ferait. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est mis à faire ces recours. Et voilà pour les commentaires que j'ai vus sur le 20 minutes. Je ne sais pas si vous en avez d'autres en tête.
Non, c'est très bien. Une question qui m'est venue, c'est de savoir, est-ce que vous avez eu des contacts avec le rectorat pour la rentrée de cette année?
Alors, non plus, non. Ça reste assez distant. En fait, c'est essentiellement un échange de lettres. On n'a pas cherché à rencontrer Yves Lukiger, à avoir de rendez-vous, lui non plus. D'ailleurs, c'est plutôt son juriste qui nous répond.
D'accord.
Voilà.
Et donc, mais là, vous étiez confiant pour cette rentrée qu'il n'y aurait pas de mesures?
En réalité, on ne savait pas, parce que l'année dernière, si je me souviens bien, 2 semaines avant la rentrée, il y avait un article du 20 minutes qui disait Dixit, Yves Lukiger, qu'il n'y aurait pas de passe à l'université. Et puis, la veille... le vendredi soir, avant le lundi, il nous dit qu'il va y avoir un pass. Donc, justement, parce qu'on avait peur de ce genre de mauvaise surprise, on n'a pas laissé tomber la procédure cet été et on l'a poursuivi pour qu'il reste, au moment de la rentrée, une certaine pression. C'est aussi une manière de se prémunir. Je ne sais pas à quel point ça a eu un effet ou non, mais en tout cas, si maintenant il remettait en vigueur le pass sanitaire, ça remettrait notre dossier sur le haut de la pile à la Cour de justice, si je puis dire.
Tout à fait. En tout cas, bravo.
Donc, c'est aussi l'intérêt de la procédure.
Bravo pour cet engagement. Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire aux étudiants, aux ceux qui vous soutiennent, à d'autres personnes? Un message au recteur? Je ne sais pas.
Bah alors non, on n'a rien spécialement contre le recteur du point de vue personnel. Je pense que lui, il doit avoir beaucoup de choses à faire puis qu'il subit aussi un peu les événements. On est simplement déçus par la longueur de la procédure et on aurait espéré qu'il y a plus de dialogue. Alors en tout cas, la prochaine fois que ces mesures sont mises en place, j'espère qu'il y aura une concertation avant de la décision, non pas après, donc une concertation avant la décision avec le corps enseignant et les associations étudiantes, et puis qu'on aura peut-être le choix entre plusieurs options et qu'on puisse décider quelque chose qui convienne au plus grand nombre sans qu'il y ait cette coercition et cette obligation vaccinale indirecte, parce que c'est un peu ce que c'est devenu en pratique. Et puis pour les étudiants, ce qu'on aurait comme message, c'est que tous les gens qui sympathisent avec nous peuvent volontiers contacter notre association. Puis on fait parfois aussi des apéritifs un peu informels juste pour rencontrer des gens. Et donc tous sont bienvenus. D'ailleurs, même les gens qui ne sont pas étudiants, c'est pas une association politisée. Vous pouvez venir donner votre opinion, contribuer un petit peu ou pas du tout. On sera ravis de vous rencontrer et j'espère que, in fine, on aura une réponse de la Cour de justice. Et que ça sera utile, hein, parce qu'en fin de compte, c'était ça notre but, c'est juste de garantir l'accès aux études pour tout le monde.
Et tout au long de cette procédure, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez fait différemment avec le recul?
Difficile à dire, hein, on peut pas refaire le passé. Peut-être avec le recul, on aurait pu justement essayer de contacter directement Yves Lukiger en septembre, au moment de la mise en place des mesures. Mais en fait, ça aurait été dur à faire, puisque à ce moment-là, nous-mêmes, on n'était pas organisés, on n'avait pas notre association, on tâtonnait aussi. Mais je pense qu'on aurait peut-être pu assister encore plus au début pour avoir ce dialogue. Je pense que maintenant, il sait qu'on est là et qu'on surveille ce qui se passe, donc ils sont peut-être disposés à trouver des compromis pour les prochaines fois.
Très bien, c'est ce qu'on se souhaite.
J'espère.
Un grand merci Benoît d'être venu nous parler de votre aventure, hein, de votre engagement. Et puis on vous souhaite plein de succès. Et puis,
merci pour le soutien.
On se retrouvera. Est-ce qu'on a une idée de quand cette procédure peut se terminer?
Alors il va y avoir encore quelques répliques et échanges. À chaque fois, il y a un mois de délai pour répondre. C'est pour ça que ça allonge énormément aussi la procédure. Je pense que d'ici Noël, on devrait avoir un arrêté de la Cour de justice. En tout cas, j'espère, c'est un peu le but.
Mmh. Très bien. Voilà. Un beau cadeau de Noël, alors.
Ouais.
Merci, bonne soirée, bonne suite et à très bientôt.
À très bientôt, au revoir.
Accusé de fournir des informations de qualité et ayant le moyen d'en faire la preuve, ils émettent sans cesse pour ceux qui souhaitent les entendre. Pour subsister, ils emploient leurs nombreuses compétences. Quand l'État ne peut plus rien pour vous, il vous reste un recours, un seul, Radio Libre.